Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à vous, à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va évoquer une actualité encore, hein, puisque c'était finalement il y a 2-3 jours. Donc un accident qui est hors mesure, qui vient de se dérouler. Au moins 32 personnes ont été blessées, une personne a disparu. Et après la collision entre un pétrolier à l'ancrage et un cargo en mer du Nord, au large des côtes anglaises. Depuis les grandes marées noires, Erika, Moko, etc., les organismes experts en pollution accidentelle surveillent plus ou moins le développement de possibles accidents entre navires, et c'est de mieux en mieux endiguer les marées noires qui sont liées aux hydrocarbures. Mais voilà, apparaissent de nouveaux produits et des inconnus dans les chargements des porte-containers. Des faits aggravants pour les scientifiques qui sont chargés du risque. Alors ici, on sait qu'il y avait par exemple du kérosène et puis on a même parlé d'un transport de cyanure de sodium, ce qui pouvait compliquer gravement les choses. Et pour nous en parler de cet accident, et nous avons donc demandé à Charlotte Nittard. Bonjour Charlotte.
Bonjour, bonjour à tous.
De nous rejoindre. Elle est directrice de l'ONG Robin des Bois. Et donc, forcément, la première question que je vais lui poser, c'est bien sûr de nous rappeler en 2 mots qu'est-ce que c'est que Robin des Bois, cette ONG qui existe depuis 1985.
C'est bien ça, en fait, cette année, nos 40 ans. Mais écoutez, Robin des Bois, c'est une association de protection de l'homme et de l'environnement qui est non-violente, généraliste et qui s'attache à faire des enquêtes de terrain, à faire des recherches bibliographiques avec un grand intérêt pour tout ce qui est historique, puisque finalement, on se rend compte que, pour notamment tout ce qui est sites pollués, déchets, c'est très important d'avoir une connaissance du passé industriel. Et puis qui a comme particularité aussi à la fois d'avoir des actions médiatiques, communiqués de presse, rapports, mais aussi de participer à tout un tas d'instances de concertation, Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques ou observateurs dans des conventions internationales qui s'occupent de trafic d'espèces menacées. Donc voilà, aussi on essaye de dialoguer avec les interlocuteurs quand ils sont de bonne foi, ce qui n'est pas toujours le cas, y compris institutionnel.
Alors,
voilà en quelques mots.
Ce qui est très très rare quand même, c'est que vous êtes une association qui est née en France, donc
tout
elle n'avait pas à l'époque d'équivalent international, si je ne me trompe.
Exactement, oui,
voilà.
Oui, tout à fait.
À la différence donc de Greenpeace ou des Amis de la Terre ou de WWF qui ont à peu près les mêmes âges. Bien sûr, depuis, de nombreuses ONG sont apparues, mais dans les anciennes, on peut dire que Robin des Bois est une de celles qui ont tenu la route.
Oui. Oui, oui, on a été des pionnières, je le dis avec d'autant plus de facilité que moi à l'époque, j'étais encore, c'était l'époque où j'étais dans les jupes de ma mère, on va dire, donc je n'y suis pour rien, et vraiment ça a été fondé par des précurseurs, par des leaders, des poissons pilotes, on peut le dire, qui ont inspiré beaucoup de monde
et par un poisson pilote un peu isolé même, qui s'appelait Jackie Bonnemain.
Oui, 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 avec d'autres, avec Katia Canas, Marla Canas,
c'est vrai qu'il y a un cas aussi.
Et Omar et d'autres, ils ont eu le courage de fonder Robin des Bois. Et Robin des Bois existe toujours, malgré quand même une vie assez agitée et une certaine... On est de taille artisanale, on a une influence importante auprès des institutions, mais on reste quand même une association de taille artisanale, donc avec toutes les difficultés que ça comporte en termes de vie quotidienne, de financement. Donc voilà, c'est un peu de la survie permanente, mais avec des résultats, donc on tient bon.
Alors, bien sûr, on va vous identifier aujourd'hui, puisqu'on va en parler beaucoup aux accidents et à la mer, hein, mais vous avez travaillé aussi sur les déchets. Et puis, vous avez commencé à travailler, on vous a connu au moment où vous défendiez les éléphants. C'était quelque chose, c'était une bataille nouvelle à l'époque.
Oui, c'était une bataille nouvelle sur laquelle on a obtenu des grandes victoires parce qu'il y a eu une interdiction du commerce international de l'ivoire en 1989 où vraiment Robin des Bois a joué un rôle capital avec des actions chez des marchands d'ivoire, avec un travail de persuasion des gouvernements.
Alors vous nous avez même fait connaître l'ivoire végétal.
Oui, absolument. Vous avez une très bonne mémoire qu'on continue à promouvoir, donc le fruit d'un palmier d'Amérique latine. Mais malheureusement, comme dans beaucoup de domaines de l'environnement, il y a des retours de balancier et le commerce de l'ivoire a été partiellement réautorisé depuis l'Afrique australe, depuis notamment l'Afrique du Sud, Zimbabwe, Botswana, Namibie en 97, avec des effets ravageurs parce que les braconniers n'ont pas de frontières, les éléphants n'ont pas de frontières, donc ils peuvent être dans un pays protégé le matin et dans un autre pas protégé le soir, ce qui est aberrant. Et puis les braconniers en ont profité. Donc il y a eu malheureusement une résurgence du trafic d'ivoire qu'on a de nouveau réussi à contrer. Mais c'est quand même très difficile. Et c'est une bonne illustration du fait que nous, environnementalistes, écologistes, alors souvent les gens nous demandent, ont besoin de victoires, de bonnes nouvelles, mais il faut quand même rester extrêmement modeste parce qu'on voit bien que en face, il y a des gens dont le seul objectif, c'est le profit à court terme et qu'ils s'organisent très rapidement pour trouver des parades quand on réussit à avoir des avancées. Donc il faut être combatif, il faut rester modeste et il faut toujours avoir en ligne de mire le coup d'après.
Toujours avoir le coup d'après. Et alors, vous dites dans la présentation de votre ONG, les mots sont notre seule arme. Alors effectivement, contrairement à d'autres ONG qui travaillent un peu sur des dossiers pas trop éloignés, il y a des actions de force, etc. Et vous, ce qui vous a fait connaître d'une certaine manière auprès de nous, les médias, et auprès du grand public, c'est la qualité de vos informations. On est presque dans un... Je dirais, c'est un journalisme d'investigation presque.
Ah, c'est de l'enquête, hein. C'est de l'enquête, beaucoup d'enquêtes, journalisme d'investigation, oui, même, oui, on est des enquêteurs sur beaucoup de sujets et on essaye d'avoir la truffe en l'air pour recouper les informations. On a la chance que certains d'entre nous ont une très bonne mémoire aussi. Et effectivement, alors on fait parfois des actions, mais de moins en moins, parce que justement, il y en a eu de plus en plus, et puis plus ou moins violentes, et ça, on ne veut surtout pas nous être assimilés à quoi que ce soit de violent ou de moche. Donc, on essaye de faire des belles actions, et sinon, notre arme, effectivement, c'est les mots. On essaye de garder une qualité rédactionnelle. Alors, parfois, on nous le reproche que nos communiqués, nos publications soient un peu trop techniques, c'est trop long. Alors, c'est vrai que ce n'est pas des vidéos Instagram, ça, on est bien d'accord. Mais bon, pour l'instant, on tient bon sur notre ligne de notre philosophie presque.
D'expliquer. Sans doute, vous avez raison d'ailleurs. Raison parce que je vois par rapport, enfin si j'en reviens à l'accident qui nous intéresse aujourd'hui, on avait des informations comme d'habitude qui nous venaient de l'agence France Presse et qui étaient reprises par l'ensemble des radios, télévisions, etc. Bon, on savait qu'il y avait eu une possibilité de cyanure de sodium, on savait qu'il y avait du kérosène, etc., etc. Et puis finalement, c'est vous qui avez donné les détails, sachant que ce kérosène, donc la qualité exacte du kérosène qui était transporté. Donc c'était un kérosène qui était destiné à l'aviation américaine, c'est ça ?
Absolument, à l'aviation américaine. Et donc, on a mis en évidence en fait que ce kérosène, qui est qualifié dans le jargon de jet A1, contient des composés, des additifs pour lutter contre l'électricité statique, ce qui est particulièrement important pour les avions militaires, enfin tous les avions, mais militaires en particulier. Et en fait, ces agents antistatiques, c'est des organophosphorés, et donc de là, on a pu mettre en évidence effectivement que c'est des composés qui sont toxiques et qui sont même utilisés pour ces propriétés dans certains pesticides. Et donc, on a accès après aux fiches de sécurité et on voit que de toute façon, ces carburants sont considérés et sont étiquetés comme ayant des dangers sur le long terme pour les organismes aquatiques. Donc la question était, disons pour nous, claire. La réponse était claire puisque on nous a dit oui, mais effectivement c'est pas du fioul lourd, c'est pas du fioul de l'Erika particulièrement visqueux, tout noir, donc le risque serait moindre. Non, c'est autre chose, c'est un autre risque, mais c'est quand même un risque pour les organismes aquatiques et voilà quoi, c'est un polluant, il n'y a pas à discuter là-dessus quoi.
Et c'est un risque qui risque de c'est le cas de le dire, de se développer de plus en plus puisque on a effectivement des annonces comme quoi on risque d'avoir des nouveaux carburants dans les navires, notamment, c'est encore pas demain, mais quand ce sera l'hydrogène. Et puis même là, finalement, une cargaison de kérosène, c'était quand même très, très dangereux.
C'est dangereux. Et en plus de
indépendamment des organophosphorés, j'ai envie de dire. Indépendamment de la chimie, c'est-à-dire la mer.
Indépendamment des additifs, ouais, tout à fait. Plus le fait que les bateaux, eux, ils marchent avec du fioul de propulsion qui, lui, est du fioul bien visqueux et qu'ils en contiennent quand même 800 tonnes. Et donc, voilà, il y a ça aussi à prendre en compte. Et puis, dans les conteneurs, pour l'instant, on ne sait toujours pas précisément ce qu'il y a. Normalement, l'armateur aurait déjà dû nous communiquer aux autorités et après, par transparence, au grand public, qu'est-ce qu'ils transportaient, ces conteneurs, parce que c'était
pas... Et ça, on ne sait toujours pas.
Coton bio, quoi. Et on sait toujours pas. On sait qu'il y avait des matières dangereuses parce que nous, on a analysé les photos et on a bien repéré qu'il y avait certains conteneurs qui transportaient des matières dangereuses, mais on ne sait toujours pas précisément qu'est-ce qui a cramé. Et puis, en plus de ça, il y a la pollution atmosphérique parce qu'effectivement, il y a la pollution marine avec, en plus de ça, une zone qui est vraiment protégée, qui est avec des marsouins, avec à peu près 100 000 oiseaux qui viennent hiverner depuis l'Arctique et le Subarctique dans cette zone précisément. Et il y a la pollution atmosphérique où les images sont édifiantes. C'est un incinérateur à ciel ouvert. C'est l'explosion d'une raffinerie et d'un hangar logistique, d'un petit Lubrizol, on va dire, qui se rencontre, quoi. Donc, de toute façon, il y a aussi ce panache avec des retombées après.
Oui, j'allais vous poser la question. Effectivement, on a vu quand même, il y a eu quelques difficultés à éteindre l'incendie. On voyait la mer brûler, quoi. Et c'est quand même... C'était dû à quoi, ça ?
C'est dû déjà au kérosène de transporté par le Stena Immaculate, donc le tanker, et puis aussi dû à ce que transportaient le porte-conteneurs Solong, parce que maintenant que les feux sont quasiment éteints, ou en tout cas semblent sous contrôle, le porte-conteneurs, c'est vraiment un tas de rouille, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tout est figé, il a entièrement brûlé, il flotte, et pourvu que ça dure et qu'ils puissent mettre mis dans un port refuge en sécurité et non pas tracter vers le large et couler comme éventuellement ça peut on peut le redouter, mais donc il y a toutes les matières qui étaient à bord de ces conteneurs qui ont aussi brûlé et c'est extrêmement difficile de en mer. On voit qu'il y a de plus en plus d'incendies à bord de porte-conteneurs parce qu'il y a des fausses déclarations déjà sur ce qu'ils transportent transportent de la part des chargeurs, parce que les armateurs ne sont pas assez vigilants pour contrôler ce qu'ils transportent. Ils font trop confiance aux chargeurs, parce qu'ils préfèrent pas savoir, parce que les tracasseries administratives, ça risque de faire perdre des clients, de faire perdre du temps. Or, tout ça, on est dans une logique de logistique internationale, mondiale. Il faut que ça aille vite. Donc, tout ce qui est précaution est une perte de temps, donc d'argent, quoi, du point de vue de l'armateur. Donc, il y a de plus en plus d'incendies à bord des porte-conteneurs et qui sont extrêmement difficilement maîtrisables. Et souvent, ça coûte ça.
Et est-ce que vous croyez que les secours, par exemple, en France, on avait le CEDRE comme expert maritime un peu par rapport à ce genre d'accident, est-ce que nos secours sont capables aujourd'hui de répondre justement à ces nouveaux risques qui sont liés à ce que transportent les porte-conteneurs dont on connaît mal finalement le contenu, quoi?
Ouais, non, ils sont pas adaptés, d'autant que il y a une course au gigantisme. Il y a ce que transporte le conteneur et la taille du porte-conteneur. Et là, on atteint des summums. Dans les années 80, un porte-conteneur, il transportait 4000 boîtes, donc 4000 conteneurs. En 2022, on est à 24000 boîtes. Donc c'est énorme, quoi. C'est des immeubles flottants et même les gros remorqueurs les plus puissants, etc., ne sont pas assez nombreux, ne sont pas assez bien équipés pour pouvoir contrer, maîtriser ces big ones. Donc non, il y a un côté loterie dans le transport maritime qui est clair, quoi.
Bon, alors je pense qu'on aura de toute façon l'occasion avec vous de revenir sur ces problèmes après l'UNOC à Nice, enfin la grande convention onusienne sur l'océan. Donc je pense qu'on aura l'occasion de se reparler rapidement, parce qu'il nous reste que quelques minutes, les animaux qui vont être complètement qui vont être pris par cette pollution localement. On a quand même beaucoup d'animaux dans ce coin.
On a beaucoup d'animaux, c'est une zone, il y a deux zones protégées, dont une zone humide, donc le Humber, qui est le nom de l'estuaire, qui est une zone d'hivernage pour des oiseaux qui sont notamment des avocettes, des combattants variés, des pluviers dorés, des chevaliers gambettes, enfin beaucoup d'échassiers, des petits limicoles pour certains protégés. Vous avez juste à côté une colonie de phoques gris, qui est une des plus importantes d'Angleterre et qui est capitale au niveau des populations mondiales de phoques gris. Vous avez aussi des forêts de laminaires plus au nord.
Et tout ça, vous allez suivre, hein, tout ça, vous allez...
On va suivre, mais ce qu'il faut, c'est que les autorités, elles, mettent en place un suivi, parce que on sait bien que la pollution, il y a plusieurs phases. Bon, il y a la phase aiguë, mais après, vous avez la phase de reconstruction, de dépollution, et ça nécessite un suivi pour voir les différentes étapes, quelle espèce diminue, quelle autre opportuniste profite de la situation.
Et est-ce que vous avez accès, est-ce qu'on vous donne réellement l'information?
Alors, c'est de plus en plus difficile. Hein. Les autorités françaises, mais pas seulement, anglaises, etc., ça dépend des interlocuteurs. Nous, par exemple, il y a un préfet maritime, une fois qu'il nous avait communiqué l'inventaire vraiment hyper détaillé de ce que contenait un porte-conteneur accidenté. Parfois, c'est la croix et la bannière. Donc là, écoutez, on espère que ça va se débloquer et que ça va bien se passer. Il y a quand même aussi localement des associations de protection de l'environnement qui sont très, très vigilantes et qui déploient depuis des années des efforts pour restaurer justement le Humber et les zones périphériques, et on peut compter sur leur détermination aussi. Donc,
Juste un mot pour terminer, est-ce que vous travaillez sur la Méditerranée?
Oui, bien sûr, pour nous la Méditerranée c'est capital. On travaille beaucoup alors sur la sécurité maritime en Méditerranée, notamment à cause des bétaillères qui sont vraiment des bateaux sous normes, qui ont généralement 40 ans, avec un gros trafic entre notamment la France, l'Algérie, le Liban, avec des pavillons de complaisance, Togo, Tanzanie, avec des équipages sous-payés et du bétail. bétail qui est transporté vraiment dans des conditions absolument terribles. C'est aussi des choses comme les lâchers de ballons qu'on réussit progressivement à faire interdire par les préfets. Donc,
Qu'est-ce que c'est, ces histoires de lâchers de ballons?
Ben, les lâchers de ballons, vous savez, les lâchers de ballons pour les commémorations, les anniversaires.
Ah oui, d'accord. Et alors après, ça fait du plastique.
Et ben, après, ça monte, ça explose, ça retombe sous forme de fragments. En fait, c'est une pollution plastique déguisée. Mmh. Et les tortues les mangent. Il y a des occlusions, des enchevêtrements, les dauphins aussi. Enfin bon, c'est un abandon de déchets volontaire sous prétexte de festivités, alors qu'il y a d'autres moyens de s'amuser et de commémorer. Donc voilà. Donc le ministère de l'Environnement, sous notre impulsion, essaye aussi de sensibiliser les préfectures et on réussit à avoir de plus en plus de préfectures et notamment les Bouches-du-Rhône ont interdit avec un arrêté préfectoral qui est un bijou dans ses considérants et y a tout est dit quoi, sur la pollution.
Bon Charlotte, on va avoir l'occasion bien sûr d'en reparler et puis de continuer ce travail avec vous, sachant que de toute façon nous allons reprendre bien sûr après UNOC, un gros sujet sur la Méditerranée et que cette petite mer fermée qui concentre plus de 25% du transport maritime mondial est directement concernée par tout ce qui vous intéresse. Et puis comme ça, vous nous donnerez peut-être un peu de nouvelles aussi fraîches concernant ce qui vient de se passer aujourd'hui au large des côtes anglaises. Merci Charlotte.
Ben merci à vous et à bientôt alors.
À bientôt, au revoir. Bien, eh bien, tout de suite, revenons un petit peu sur une information que nous vous avons délivrée la semaine dernière, qui était les coupes sombres qu'avait effectuées Trump concernant la science et les sabotages. Alors, vous savez qu'il y avait un mouvement qui s'était constitué, qui s'appelait Stand Up for Science. Les chercheurs français, finalement, ont pris le mouvement en marche. Et vendredi 7 mars, qui était le premier jour des rassemblements, eh bien, il y a eu entre 13 et 16 000 personnes à peu près qui se sont retrouvées du fond de la grotte Chauvet jusqu'en Kanaky, enfin pour exprimer leur solidarité avec les scientifiques et les universitaires aux États-Unis et en Argentine. Et il fallait remonter à 2004 pour retrouver une telle mobilisation en soutien à la recherche scientifique. Alors à Montpellier, il y a eu plusieurs manifestations qui se sont déroulées à midi devant les lieux de recherche, à 18h environ, 3000 personnes se sont retrouvées devant l'Opéra Place de la Comédie et le collectif s'est donné à nouveau rendez-vous le 11 mars et il faut, de toute façon, il a l'intention de poursuivre cette action. Alors on va écouter Gonéry le Cazonnet, pardon, j'écorche un peu son nom, qui est expert climat du GIEC, membre du BRGM, qui nous rappelle un peu les enjeux. Alors, comme il est en vélo au moment de son interview, ce qui est un peu original, vous risquez d'entendre sa voix parfois marquée par l'essoufflement. Donc, on s'en excuse.
Alors, c'est un mouvement qui est parti des États-Unis. C'est les chercheurs américains qui ont lancé finalement une série de manifestations le 7 mars. Le 7 mars, donc, c'était vendredi dernier, pour défendre en fait la science. Aujourd'hui, la science, elle est attaquée par le gouvernement américain, par Elon Musk, par Donald Trump. Ce qui est en jeu, c'est l'existence d'une expertise indépendante du pouvoir politique qui potentiellement en fait va dire les choses telles qu'elles sont, les faits, et qui va s'opposer au projet complètement farfelu en fait de ces gens-là. Il faut voir la gravité de ce qui se passe aux États-Unis en fait, c'est-à-dire que d'un seul coup vous avez toute l'aide américaine USAID qui s'est arrêtée. Il y a des estimations, vous allez avoir des milliers de morts en fait, des gens qui pourront plus bénéficier d'aide pour les accouchements, pour des choses comme ça. À la NOAA, c'est l'agence américaine qui fait la météo, qui s'occupe de l'océan, qui gère les questions des cyclones. Il y a eu probablement au-dessus du millier de licenciements. Et du jour au lendemain, vous n'avez plus les capacités en fait de suivre les cyclones. Alors qu'est-ce qui va se passer en septembre, là, quand vous allez avoir la saison cyclonique? On n'en sait rien, quoi. Vous avez dans les licenciements, il y a une collègue là qui s'appelle Sarah Coulet. Elle s'est occupée du chapitre océan du rapport du GIEC, dans le rapport du GIEC, le sixième rapport du GIEC qui est sorti en 2022. Elle a été licenciée du jour au lendemain. C'est directrice du programme d'acidification de l'océan. Parce que l'océan s'acidifie, parce qu'il y a des émissions de gaz à effet de serre. Tout ça, ils veulent pas en entendre parler, donc ils virent les gens, quoi, tout simplement.
Et ils donnent quoi comme motif quand ils virent les gens?
Alors en fait,
parce que tu vires pas les gens comme ça, je veux dire, à un moment donné...
La motivation, c'est l'efficacité. C'est de dire, il y a des dépenses inefficaces. Les dépenses inefficaces, on les enlève. Pour eux, les dépenses inefficaces, ça recouvre tout un tas de concepts qui sont l'étude du changement climatique, l'étude des inégalités, l'étude du cas particulier des femmes. Et tout ça, en fait, c'est des financements qui, pour eux, finalement, sont woke. Alors voilà, woke, ça veut dire quoi? Ça veut, en gros, c'est tout ce que l'extrême droite considère comme n'étant pas compatible avec avec ses valeurs. Ce qui se passe, par exemple, c'est que pour les cyclones, vous avez des zones, en fait, sur lesquelles vous avez des services qui sont responsables de la production de données, par exemple. Ouais. Et pour les Caraïbes, c'est les Américains.
D'accord. Alors,
par rapport à aux Antilles françaises, il y a aussi une expertise indépendante. Hein. On n'est pas complètement démunis, mais clairement, on dégrade les connaissances. Hein. Voilà. Sur l'acidification des océans, mais du plus généralement sur le changement climatique, ce qu'il faut bien voir, c'est que Valérie Masson-Delmotte, elle a estimé qu'il y a à peu près 25% de la science sur le climat qui vient des États-Unis.
D'accord.
Parce qu'en fait, les États-Unis, en fait, ils investissent massivement dans la science. En fait, ils ont investi jusqu'à présent massivement dans la science. Va s'arrêter.
Tu ne deviens pas numéro un mondial à la Silicon Valley, parce que pour parler de science que les gens comprennent et connaissent, tous les développements informatiques, les serveurs, les machins, l'IA, c'est de la science.
C'est vrai que ce qui est visé aujourd'hui, c'est vraiment les sciences, en fait, de la soutenabilité. Qui cherche en fait à améliorer l'équité, qui cherche à améliorer, en fait, les sciences qui s'intéressent à comment on fait pour avoir une société qui soit soutenable sur le long terme, en fait.
Voilà, c'est pour ça.
En termes sociaux, en termes environnementaux. Ça, c'est vraiment la cible.
Alors, le collectif Stand Up for Science appelle à mettre en œuvre dès maintenant un plan de défense de l'université et de la recherche. Cette semaine, les licenciements se sont poursuivis, touchant particulièrement l'éducation nationale et la NASA. À terme, Donald Trump envisage de supprimer le ministère de l'éducation nationale, qui a été créé en 1979 aux États-Unis, et de transférer ses attributions aux différents États. Mais cette décision doit avoir l'aval du Sénat, ce qui n'est pas acquis. Eh bien, au revoir sur ces nouvelles qui ne sont pas très folichonnes. Et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.